En tout cas, j'ai vu plusieurs fois cette comment dire, réticence envers les positions de Kundera, des réticences, disons, d'ordre éthique par rapport à cette sorte de satanisme contre l'humain, n'est-ce pas, que tout est relatif ou. Mais ça ne tient pas, c'est une interprétation très très poussée aux extrêmes. Quand on lit le roman même, on voit que les essors sont plutôt les essors de l'éthique, du petit kitsch, des sentiments.
Oui.
Donc,
Mais combattre le kitsch, c'est déjà désirer autre chose qui
oui,
serait plus près de la vérité.
oui.
C'est de percevoir dans le kitsch quelque chose qui justement
Tout
nous
à fait,
éloigne de la vérité de l'être.
oui. Mais l'amour, par exemple, chez Kundera, mais arrive comme depuis la fondation du monde par magie. On ne sait pas, c'est-à-dire il y a des aspects tout à fait qui n'entrent pas dans le relatif, qu'il y a des ordres que nous ne pouvons pas visiter, qu'il y a des mondes invisibles. On regarde, on tire un peu le rideau pour voir là-dedans, mais. On ne peut pas dire que le romancier s'impose comme un démiurge diabolique.
Non, c'est ça.
Non,
Mais
ça ne tient pas.
il y a une opposition, ce qui peut peut-être gêner
Oui.
chez Kundera, c'est cette opposition au monde actuel. Je vous le cite ici
Oui,
justement, j'ai
oui, oui.
quelque chose. Il dit: Le roman ne peut plus vivre en paix avec l'esprit de notre temps. S'il veut encore continuer à découvrir ce qui n'est pas découvert, s'il veut encore progresser, et là il met des guillemets, en tant que roman, il ne peut le faire que contre le progrès du monde. Bien entendu, personnellement, je me fais pas d'illusions sur le progrès du monde. Et je pense qu'il y a peu de personnes en réalité qui nourrissent cette illusion-là. Mais le fait que le roman, je pense que ça peut gêner plusieurs amateurs de romans, appelons-les
Oui,
ainsi, le fait que le roman doive être en porte-à-faux avec le monde, comme s'il devait toujours déconstruire, comme si il devait toujours présenter l'aspect négatif de l'humanité.
là, c'est un problème très, très difficile à traiter. Tout d'abord, Kundera aime les aphorismes. Si on prend tout à la lettre, je crois qu'on ne comprend rien avec des aphorismes. C'est toujours, il y a une beauté, mais la beauté de l'aphorisme cache parfois la vérité. Il faut chercher, il faut prendre mot par mot, il faut réfléchir, il faut méditer. Et quand il dit que d'emblée, il doit s'opposer au monde tel qu'il est aujourd'hui, il veut dire que quelque chose ne va pas avec le monde. Si on le disait comme ça, quelque chose aujourd'hui ne va pas avec le monde tel qu'il est, il serait accepté, évidemment. Mais je vous dis que l'aphorisme perdrait beaucoup en beauté et en méditation ultérieure. Avec la phrase de Kundera, je crois qu'elle est tirée du rideau, ou du dernier.
Non, j'ai pris ça
Non?
encore dans l'art du roman.
Ah, c'est là, dans
Oui,
l'art du
oui, oui.
roman. Et c'est. Une critique, dans cette phrase, il y a, telle que je l'interprète, il y a une critique de l'euphorie du monde scientiste et humanitariste. Là, il y a un mariage qui s'opère depuis quelques décennies entre la science, qui, bizarrement, et technologique, et une certaine manière d'aide à notre prochain qui est institutionnalisée et qui a pris ce vocable d'humanitaire. Et nos sociétés, parce que quand voilà encore un des inconvénients d'un aphorisme aujourd'hui. Cet aphorisme concerne l'Occident, ne concerne pas les tribus en Australie, n'est-ce pas, ni l'Afrique noire. Mais ça concerne l'Occident tel qu'il est aujourd'hui. Et dans cet Occident, il y a ce mariage entre la technique et le bon sentiment qui donne comme résultat, si nous sommes quand même un peu, conséquents avec nous-mêmes, donne les résultats que nous voyons autour de nous. Ce n'est pas très réjouissant. On dit, si le roman continue à exister dans une existence tautologique avec le monde, pour refléter et pour dire, ben, il y a un peu du bien, il y a un peu du mal, s'il ne s'oppose pas radicalement à ce monde, mais il abandonnera son être.
Mais pourtant
ça ne, excusez-moi, oui. Dominique, ça ne signifie pas que ce ne sera pas une œuvre euphorique. Mm-hmm. Au contraire, si on s'oppose à un monde, si ça ne vaut pas la peine d'adhérer, si on s'oppose à un monde, mais c'est la création. C'est la création d'un monde. Mm-hmm. Rabelais s'oppose à son monde. Il n'adhère pas à son monde. Mm-hmm. Mais c'est l'euphorie qui nous nourrit encore aujourd'hui. C'est euphorique, la contestation est euphorique. La contestation pour la contestation, c'est
un piège. Ça aussi.
Un piège. Oui. Mais si on crée des personnages qui nous font découvrir d'où vient cette morosité, d'où vient cette négation, d'où vient ce nihilisme d'aujourd'hui, si le roman se propose comme création, mais il nous remplira de sentiments d'euphorie. Ce n'est pas une opposition, disons.
Mais vous n'avez pas l'impression que dans l'histoire même du roman, vous savez que le roman a pris, enfin, c'est une théorie un peu peut-être convenue qu'on pourrait critiquer, mais le roman a pris son essor, c'est la bourgeoisie, c'est la classe sociale bourgeoise qui a donné son essor au roman. Et le roman a été aussi le porte-parole de l'esprit des Lumières, qui met en place la rationalité et aussi l'individualisme. Cette revendication-là de l'individu, vous n'avez pas le sentiment que dans le monde actuel, dans ce que vous dénoncez comme une des laideurs du monde actuel, il n'y a pas aussi un peu l'individualisme n'aurait pas un rôle à jouer dans tout cela, de même que la raison telle qu'on a pu la concevoir.
Écoutez, tous mes travaux, je ris avec moi-même parce que c'est une phrase que je n'aime pas beaucoup. Tous mes travaux sont consacrés à dissocier la pensée du roman de la considération du roman comme un acquis ou comme un résultat de la montée de la bourgeoisie. Donc, j'aimerais désenclaver cette proposition, dire que ça commence avant et qu'il a un avenir autre que celui de la bourgeoisie.
Ou du libéralisme.
Ou du libéralisme. Et ça ne signifie pas que le temps est autre. Parce que quand je dis que déjà les premiers éléments s'instaurent avec Boccace, nous sommes en 1350, donc au milieu du XIVe siècle, ça correspond avec l'analyse, disons, sociale ou sociologique de l'apparition de Bourg, de la bourgeoisie, du commerce et de l'argent gagné par le commerce. Évidemment, ça, nous, les deux mondes, disons, cohabitent. Le terrain est fertile pour les romans, mais associer complètement l'essor du roman, l'apparition et l'essor, et le parcours et l'essor et tout, de cet art, avec l'apparition, l'évolution et la mort de la bourgeoisie, ça me paraît restrictif pour les romans. Ce n'est pas ça. Tout d'abord, sur le plan pratique, nous avons de deux côtés, des romanciers qui n'ont aucun rapport à la bourgeoisie, qui ont donné des œuvres immenses. Du côté, disons, des gens qui ont complètement ignoré cette histoire de lutte de classe, je peux facilement dire Dostoïevski. De l'autre côté, des gens qui ont ignoré cette lutte de classe par idéologie, par croyance, ce sont des croyants, et je peux mentionner Bernanos. Donc je dis, voilà, même un regard un peu objectif sur cet art suffit pour prouver que c'est à côté, ça se passe à côté de ce courant, de ce grand courant social ou historique, ou social et historique en même temps, et politique. C'est un art. C'est un art qui a un rapport avec son monde. On ne peut pas imaginer le roman pour Athènes de Périclès. Là, je suis d'accord. Mais ça ne signifie pas qu'on déduit l'existence du roman à partir de cette confrontation qui, je crois, elle se trouve, si je me mets maintenant dans des domaines qui ne me concernent pas directement, je crois que cette conflit, disons, est, par ce libéralisme, résolu d'une manière, cavalière, en disant que voilà, c'est l'argent qui nous intéresse tous, faisons la paix autour de l'argent. Et bien, le roman se trouvera en face. Ce sera le grand ennemi de cette évolution. Et disons, s'opposer à ça, c'est à l'honneur du roman.
Enfin, un certain type de roman. Parce que, vous savez comme moi, que la majeure partie des romans qui se publient ne sont pas forcément en opposition avec cette idéologie-là.
Écoutez, vous savez, il y avait des centaines de tragédies à Athènes. Parfois, le public, mais c'était quand même un public plus averti, donnait le prix, parce que chaque année, c'était le public qui votait, ne donnait pas aux meilleures pièces. Et parfois, les pièces qui nous sont restées, ce sont des pièces qui n'ont pas eu un prix. Mais ça, c'est une échelle, disons, du mal beaucoup plus moindre que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est juste pour un peu rééquilibrer la critique, dire que si on parle quand même de l'art et du roman, on parle de création, des œuvres qui reviennent, qui sont valables. Je vous dis tout à l'heure que si on prend les liaisons d'Anzerer aujourd'hui, je crois que c'est une œuvre contemporaine. Dans un certain sens, j'essaye de dire aujourd'hui avec Rabelais que c'est une œuvre contemporaine, etc. Donc, je réfléchis avec ces œuvres.
Ben, c'est ça. Ce que vous dites maintenant, ça nous amène justement à, je le répète, notre émission porte sur la valeur. Alors, vous avez utilisé certains mots, l'esthétique, vous avez parlé de la beauté même à un moment donné. Et donc, j'aimerais qu'on se dirige vers ça justement. Et là, forcément, il y aura une distinction qu'on devra apporter entre des œuvres qui seraient valables à vos yeux par rapport à d'autres qui ne le sont pas. Mais pour faire la transition, j'aimerais citer un passage de vos échanges avec Michel Déon. En réalité, je vais citer le passage d'une lettre de Déon lui-même parlant du roman. Et si on met ça en opposition aux propositions qu'on a formulées précédemment autour de Kundera, il me semble que ça apporte une autre dimension. C'est à la page 95 de votre livre. Cette histoire, il parle d'un de ses romans, vous m'excuserez, je pense que c'est Le jeune homme vert. Cette histoire n'est pas écrite pour qu'un hypothétique lecteur se prenne la tête dans les mains, ni pour changer le monde qui a surtout besoin qu'on ne le change pas, puisque c'est toujours pour le pire quand les écrivains prétendent lui dicter ses lois. Le roman est d'essence magique. Contre la pauvreté physique et morale des temps, il immunise son lecteur comme son auteur. Il est notre ballon d'oxygène. Sans lui, nous ne respirerions pas. Fin de la citation. Il me semble qu'ici, Déon apporte une autre dimension. Tout à l'heure, chez Kundera, c'était la question de la connaissance existentielle. Et ici, il parle de l'essence magique du roman. Et il me semble que ça nous conduit aussi vers ce qu'on pourrait appeler peut-être la beauté. Selon vous, est-ce que la beauté est une valeur importante dans l'art? Puisque vous avez parlé de l'art aussi, qu'est-ce qui distingue l'art d'autre chose? Est-ce que la beauté est une des composantes de l'art?
Mais il n'y a que ça. Si on parle de l'art, on parle de la beauté. C'est-à-dire non seulement on ne peut pas esquiver la question, mais si on est dans l'art, on est dans la réflexion concernant la beauté. Je dis ça parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à se débarrasser des mots qui posent problème. Dès qu'il y a une ambiguïté ou qu'il y a un passé qui a donné plusieurs solutions à un problème, on l'écarte et tout de suite, par ce geste, on se croit dans le vrai. Évidemment, parce que si on enlève l'épine, on est soulagé. Mais je crois que je garde cette épine qui s'appelle beau, qui dure depuis Homère jusqu'à aujourd'hui. Sinon, nous ne sommes plus dans la réflexion esthétique. Donc, le beau est au centre de notre intérêt. Mais chaque art réalise son beau, sa beauté. La beauté est en même temps une expérimentation. Les arts plastiques réalisent leur beauté.
Mais il y a tout un courant de l'art moderne qui s'est plutôt tourné, je ne dirais pas vers la laideur, ce serait manichéen de parler ainsi, mais vers le fond de souffrance, qui a refusé justement une certaine idée du beau qu'on avait hérité du classicisme. Et à ce moment-là, c'est là où ça devient difficile maintenant de parler du beau, d'envisager quelle serait la beauté du roman à l'heure actuelle, parce que, bien entendu, on ne veut pas retomber non plus dans les ornières d'un beau. Tout à l'heure, on parlait du kitsch. Bon, alors, c'est comme si le beau était définitivement associé au kitsch maintenant dans nos esprits et que...